France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, patrimoine, spectacle, visite et initiative. L'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 6 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Marie. Bonjour Marie.
Bonjour.
On va parler sport aujourd'hui, la boule de fort. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, un peu comme beaucoup d'Angevins sûrement, mais connaissez-vous vraiment ce jeu qui se pratique aussi sérieusement qu'un sport et dont l'ambiance conviviale est une religion? Avec nous pour en parler aujourd'hui, Louise Croquevieille, chargée de la communication pour les 3 musées insolites en Anjou. Et puis ensuite, un livre à déguster sans modération, Mathilde Mailleux, libraire parisienne et responsable du secteur religieux de la Procure, nous livre son coup de cœur, Le Murmure de Christian Bobin. Mais tout de suite, on se rend au château de Baugé pour l'exposition « Ça roule, la boule de fort d'hier et d'aujourd'hui ». Et c'est parti pour 30 minutes ensemble.
Franche Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
L'année olympique et le passage de la flamme à Baugé a donné une idée d'exposition sur un jeu pratiqué depuis 200 ans en Anjou, mais pas si connu que ça.
Ici, si tu te balades par chez nous, tu verras que tout est doux en Anjou. Évidemment, il y a le climat qui est tempéré, mais les Angevins ne sont guère manifés. Dans notre contrée, le plus pratiqué des sports, allez, faut pas sourire, c'est la boule de fort. Ça correspond tout à fait à notre tempérament, cette boule qui roule en déguine-baudant.
Alors, Louise Croquevieille, bonjour. Vous êtes chargée de communication et d'événementiel au sein des 3 musées insolites en Anjou. Après ce petit rimio, nous allons parler de l'expo sur la boule de fort. Cette expo se trouve actuellement et jusqu'au 3 novembre au château de Baugé. Alors Louise, bonjour.
Bonjour Marie.
Pour préparer l'expo, vous avez mis les mains à la pâte? Vous avez joué? Racontez-nous.
Évidemment, c'était essentiel. Donc oui, pour préparer cette exposition, on a sondé nos collections déjà, puisque une exposition pour les 3 musées insolites en Anjou, ça part des collections à la base. Et ensuite, on est allé évidemment sonder un petit peu l'Anjou et le Baugeois, terre natale de la boule de fort, et notamment les cercles et sociétés de boule de fort de Baugé. Donc oui, on y est allé, on les a rencontrés et on a joué, évidemment.
Vous avez testé, alors.
Évidemment. C'est super
impressions...
dur. C'est très très dur.
Voilà, j'ai testé aussi, c'est un peu tout ce qu'on se dit en fait, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Alors la boule de fort, ben, c'est quoi? Une brève description?
La boule de fort,
peut-être, je sais pas.
La boule de fort, c'est un mélange entre la convivialité et le sport. Tout ça sur fond de pistes en résine très très longues. Donc ce sont des salles, des jeux où les gens se retrouvent. Donc ces cercles, ces sociétés comme on les appelle. À l'intérieur, vous avez de très longues pistes qui vont de 18 à 25 mètres de long. Quand même. Et sur ces pistes, on s'y affronte amicalement. C'est un jeu qui se joue en équipe et on y lance avec délicatesse. On y fait rouler des boules de fort. Donc ce sont des sortes de boules de bois, originellement, des boules de bois qui ont un côté... c'est une boule méplate, on l'appelle comme ça, puisqu'elle a un côté fort et un côté faible.
Ouais, c'est l'élément principal. Hein,
c'est
la boule
ça.
De fort, c'est la boule. Qu'est-ce qu'elle a de particulier?
Elle est
côté fort, côté faible.
Côté fort, côté faible, donc elle ne va pas droit, cette boule. Elle est indomptable, enfin, pour les novices comme moi, elle est indomptable pour les professionnels, elle est domptée. Mais cette boule, en fait, elle va aller sur la piste qui est incurvée, et elle va aller d'un côté à l'autre pour rejoindre ce qu'on appelle le maître, le petit, une sorte de cochonnet. Au final, c'est le cochonnet de la boule de fort, on peut le dire. Et donc, le but, comme à la pétanque, est de se rapprocher le plus proche du maître.
C'est vrai que pour comprendre, on y revient toujours, on revient à la pétanque pour comprendre. Mais c'est pas du tout pareil.
Non, complètement
différent.
La boule
de fort, elle est... En quelle matière?
Elle est en bois. C'est une boule.
Traditionnellement, elle est en bois.
Exactement. Traditionnellement, elle est en bois. Alors, traditionnellement, c'est une très, très grosse boule de bois, du bois de Gaillac. Donc, c'est un bois exotique qui provient de la cordillère des Andes.
Oui, il y en a un. Vous avez un exemplaire dans l'exposition.
Oh, tout à fait. On en présente deux. Elles sont massives.
Ah, oui.
La boule de fort, aujourd'hui, elle fait 10-12 cm de diamètre. Ici, on a des boules qui font à peu près 20 cm de diamètre et qui peuvent peser jusqu'à 5, 6, voire 9 kg en fonction de la densité du bois. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant avec ces boules originellement de Gaillac, c'est qu'elles sont très lourdes, très denses. Et en fait, c'est le nœud du bois qui, à cette époque-là, créait le fort. Aujourd'hui, il est créé oui. artificiellement.
Donc le fort, c'est la partie lourde.
C'est ça.
Et l'autre côté qui est moins fort s'appelle le faible.
C'est ça.
Donc la boule, elle est ronde. Enfin, elle n'est pas ronde, mais quand elle est construite, je vais y arriver. Et voilà, elle est construite ronde et puis hop.
Elle est taillée effectivement pour avoir une sorte de cercle, puisqu'en fait elle est cerclée, elle va rouler sur le cerclage en fer. C'est comme si on avait une boule qu'on coupe sur les deux côtés.
Voilà.
Une partie est un peu plus concave, une un peu plus convexe, une qui a un petit peu de voilà qui ressort et l'autre qui est un petit peu creusée pour effectivement créer ce fort. Et en plus, on a une petite partie en plomb, souvent une sorte de vis à l'intérieur qui va créer le poids, le fort sur un des côtés.
Alors donc, elle est toujours fabriquée.
Elle est toujours fabriquée, oui, on a encore quelques fabricants dans le Baugeois notamment, donc c'est quand même assez local, il faut connaître les fabricants. On en a notamment un qui est à Morane, Nicolas Battard, qui est un fabricant qui est très jeune, oui, qui a une trentaine d'années, et qui a repris en fait un atelier de boule de fort et qui perpétue cette tradition de la boule de fort. Alors,
donc lui, il est fait en bois.
Il les fait en bois, mais il en fait aujourd'hui en plastique, puisqu'en fait, elles sont aussi en plastique. Elles s'abîment un peu moins, le plastique.
Un peu moins cher.
Elles sont un petit peu moins chères aussi. C'est quand même assez onéreux. C'est vraiment de l'artisanat local. Et donc, il les fait sur commande, ces boules de fort. Donc, ces paires de boules de fort, puisque ça se joue. On a deux boules. Chaque joueur a ses deux boules.
À la pétanque, on en a 6, mais là, il y en a 2.
C'est ça. On a 2 boules. Et donc, il les fabrique en bois et aussi en résine. Alors, résine colorée, etc. Et comme pour les bois, il y a certains types de bois. On peut les commander en buis, en cormier. En fonction de la densité du bois aussi, ça dépend. Et puis la couleur.
En fonction du poids qu'on souhaite aussi.
C'est ça, tout à fait. La boule, elle pèse entre 1,2 et 1,5 kg.
Ouais,
c'est ça.
Actuellement. Est-ce que les boules de bois sont recherchées, les anciennes ? Est-ce que c'est recherché ou est-ce que ça s'use ?
Elles s'usent.
Ouais, j'ai trouvé que ça s'usait.
Elles s'usent beaucoup.
Quand on en voit dans l'exposition, là, on voit bien le.
Parfois, elles sont fendues aussi. Elles finissent par se fendre, effectivement. Une autre des particularités du bois de Gaillac, c'est que c'est un bois gras. C'est un peu particulier.
Donc ce fameux bois exotique.
Bois, oui, c'est ça, voilà. Qui est très dense, ce bois de Gaillac exotique. C'est un bois qui est gras et du coup qui va avoir une certaine qualité pour glisser sur le bois, sur la résine, sur la piste, le jeu de boules de fort. Aujourd'hui, c'est un bois qui est protégé, mais on retrouve certains bois qui ont un peu ces mêmes caractéristiques, un peu dense et un peu gras aussi, qui permettent de glisser sur la piste.
Elles ne glissent pas vraiment. Elles
sont guingois. Brinque-ballée, c'est parfait pour parler de la boule de fort.
C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que ces premières boules avec ce bois exotique, vous dites que c'est le nœud qui faisait le fort. Donc, en fait, c'est assez aléatoire, alors que maintenant, en fait, on place une vis. Donc, le joueur peut demander au fabricant de placer plus ou moins.
C'est ça, oui. Une boule de fort, ça se règle, en fait.
Oui.
Et c'est vrai qu'à cette époque-là, alors, à l'époque, on avait donc les boules de Gaillac en Gaillac qui pesaient 8 kilos. On n'en avait qu'une seule. Et on l'a lancée à deux mains. Donc, c'était aussi une manière de jouer complètement différente.
Alors, Louise, on va continuer. La boule de fort, ce sport, ce jeu, c'est une boule, mais c'est aussi un terrain qu'on appelle plutôt là une piste.
Une piste,
vous
un jeu.
On en parlait un petit peu tout à l'heure. Oui, on appelle ça un jeu, ça. Une piste,
un jeu,
terrain.
Donc,
il est en intérieur.
C'est ça. Il est en intérieur depuis environ les années 60.
Voilà. Il a des dimensions maintenant,
c'est
réglementaires.
Ça. Donc elles sont réglementées au fur et à mesure, à partir du moment où les challenges, on en parlera je pense après, au moment où les challenges, donc ces compétitions amicales sont arrivées, il a fallu des règles communes et donc des longueurs de pistes communes et aussi des lourdeurs de boules communes. Il fallait quand même réglementer un petit peu tout ça. Oui.
Alors cette exposition au château de Beaugeais, vous en avez eu l'idée grâce aux Jeux Olympiques ?
Grâce aux Jeux Olympiques, ça traînait depuis un petit moment quand même, dans les tuyaux.
Quand la sortir finalement ?
Quand la sortir, c'était un peu délicat et c'est vrai que 2024, année olympique, on s'est dit bon, peut-être que la boule de fort ne sera pas parmi les sports des Jeux Olympiques, mais on va quand même lui rendre hommage, c'est notre sport local, c'est le sport de l'Anjou, incontournable. 2024, c'est son année. Donc on a puisé dans nos collections et pas que. On est aussi allé voir
vous êtes allé voir les cercles et les sociétés autour.
Cercles, sociétés et aussi quelques particuliers qui se sont proposés pour nous prêter des boules de fort anciennes qui traînent un peu dans les greniers, un polissoir, des règlements.
Oui, il y a un polissoir dans le. Un outil de fabrication.
Plein d'objets au final qui permettent de reconstituer un petit peu l'histoire de la boule de fort. Ça va du trophée à la piste puisqu'on a un mini jeu de boule de fort, histoire de se rendre un peu compte. Voilà, c'est ça de ce qu'est la boule de fort, cet objet. Cette ambiance aussi, puisque c'est aussi une ambiance, la boule de fort.
Alors, on dit un sport, on dit Jeux Olympiques, mais enfin, quand même, la tenue de ce jeu, l'indispensable, c'est le chausson.
Le pantoufle.
Là, ça fait quand même un peu rigoler, pardon. Alors, pas de chausson exposé dans l'expo, mais il y a 6 magnifiques photos. Quelqu'un est allé dans un cercle faire de très belles photos. Et il y a la photo du placard, parce que les chaussons, il ne faut pas les oublier. Donc, il y a un placard pour pouvoir stocker ces chaussons d'une fois à l'autre. Et c'est vraiment indispensable, parce qu'on voit des pancartes où il est écrit « chaussons indispensables, amende s'y oublie ».
Tout à fait. Alors, je pense que l'amende, aujourd'hui, n'est plus de rigueur, mais
non,
ça doit dater.
Non, elle n'est plus dans le règlement. J'ai examiné le règlement. En fait, il n'y a pas d'amende pour l'oubli des chaussons.
Et
il faut mettre des chaussons.
Il faut mettre des chaussons.
Et pourquoi?
Pour ne pas abîmer la piste.
Et oui.
Pour ne pas abîmer le jeu de boule de fort qui aujourd'hui
est en résine.
Alors, le
revêtement de la piste. Eh oui, c'est en résine.
C'est ça. C'est de la résine. Donc, c'est une piste incurvée qui a été bétonnée et recouverte d'une résine. Puisqu'à l'origine, le jeu de boule de fort, c'était un mélange de terre et de sable. Et donc, beaucoup plus compliqué d'entretien.
Ouais.
À partir des années 60, c'est devenu en résine. Pour un entretien beaucoup plus facile. Donc oui, le chausson...
Un entretien, mais une fragilité.
Une fragilité aussi, et c'est assez amusant quand on voit, notamment grâce à ces photos, quand on voit un petit peu l'état de la piste, on se rend compte qu'il y a pas des éclats, mais on voit quand même que la boule tape, la boule de fort tape sur la piste.
Le cercage en métal, ça peut, oui.
C'est ça. Donc elle s'use au fur et à mesure, mais elle est quand même beaucoup plus pratique d'entretien pour lisser, etc. On n'a plus besoin d'avoir...
Il ne faut pas abîmer la piste et puis il ne faut pas détourner la boule de sa trajectoire scientifique.
Exactement.
Voilà, c'est une obligation de chausser des chaussons qui figure au règlement de la Fédération française de boules de fort qui est en application depuis le 1er janvier 2020. Alors, Alors, c'est récent, par rapport à l'existence du jeu, c'est récent, 2020.
C'est assez récent.
Qu'est-ce que la rédaction d'un règlement, d'une contrainte, dit de la boule de fort, de ce jeu maintenant?
C'est quelque chose d'officiel. C'est quelque chose qui est officiel, qui est reconnu aussi, puisqu'avoir un règlement, une fédération, ça permet aussi d'ancrer ce sport qui, parfois, est un petit peu considéré comme une blague, injustement, je trouve, puisque ça fait partie du terroir depuis, vous disiez, 3 siècles, peut-être même plus, on ne sait pas exactement. Donc d'avoir une fédération, d'avoir un règlement commun, ça permet de donner des lettres de noblesse au final à la boule de fort qui les mérite.
Un peu une professionnalisation? Peut-être pas quand même.
Professionnalisation, je ne suis pas sûre qu'on y arrive parce que l'une des essences en fait de la boule de fort, c'est aussi le côté amateur. On y va pour se retrouver, pour jouer et en fait, il n'y a pas d'âge pour commencer la boule de fort. Il n'y a pas de technique particulière à avoir. Alors effectivement, ceux qui ont 15 ans de boule de fort dans les pieds, dans les chaussons, sont
et
meilleurs
dans les mains,
que...
parce qu'il faut la porter.
Et
il
dans
faut
les
la...
mains,
voilà.
Il faut savoir la
faut
déposer la, voilà, sur la piste.
La déposer, c'est ça, on ne la jette pas.
On ne la jette pas, surtout pas. J'ai eu l'audace
on
de le faire.
On revient à la pétanque pour essayer de comprendre. On revient toujours à ce qu'on connaît bien, c'est-à-dire le jeu de pétanque pour comprendre. Mm-hmm. Mais en fait, ce n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que là où on lance et qu'il y a un bruit métallique, là, il faut la pousser gentiment.
C'est l'éloge de la lenteur.
Oui.
C'est vraiment ça. La boule de force, c'est l'éloge de la lenteur, de la délicatesse.
La concentration.
La concentration. C'est peut-être là aussi où on retrouve le côté sportif. Parce qu'une compétition, donc un challenge, comme ça s'appelle en bon français, un challenge de boule de force, ça peut durer très longtemps. Ça peut aller de 1h30 à 3h.
Oui.
Donc c'est très long. Une partie de boule de force, il faut une certaine concentration. Et puis on évite de critiquer. On ne crie pas dans un jeu de boule de force. C'est
Parler
beaucoup
doucement.
Moins. C'est ça. C'est beaucoup moins vif qu'une partie de pétanque qui se fait avec force et éclat.
Voilà, ils sont tous autour de la piste, enfin le long de la piste, et chacun regarde.
C'est ça.
Voilà, avec beaucoup de sagesse, ce que font les autres.
Et parfois moquerie.
Moquerie, mais pas trop. Si j'ai bien lu le règlement, en fait,
non, pas trop.
Dans les derniers articles du règlement, il faut vraiment bien se comporter.
Ah oui,
vraiment.
Le comportement.
Et les joueurs et les spectateurs, il est demandé, une certaine tenue morale.
Tout à fait.
On se moque pas. Louis Croquevieille, un autre élément indispensable de la boule de fort, c'est la convivialité. On l'a dit au départ, c'est dit aussi dans le poème. Donc il n'y a pas de société sans bar, sans Fanny. Alors, allons-y. Donc, après la partie qui peut durer de 1h30 à 3h, Le bar.
Le bar, évidemment. Le bar, ça fait partie, on va dire, de l'essence, de la base aussi de la boule de fort, puisque le bar, au tout début, à l'époque où le jeu de boule de fort était en extérieur, c'était la chambre. Alors, on l'appelle la chambre, c'était en fait la seule pièce qui était fermée et dans laquelle il y avait déjà le bar et le stockage des chaussons, des boules, etc. Et en fait, cette chambre, elle a pris de plus en plus d'espace, mais le bar, c'est vraiment le pilier, on va dire, de cette boule de fort. Alors, certains iront vers la moquerie en disant « Oui, les Angevins aiment beaucoup le, voilà, le boire,
petit,
le,
petit
de, le petit ballon,
blanc,
la après. Fillette de blanc, mm-hmm. etc. » Et au final, ce bar, c'est cette convivialité, ça permet de partager un verre ensemble, de discuter et aussi d'entretenir la salle. Puisqu'au final, le bar, en fait, sert à entretenir et parfois à payer le concierge, oui. comme à l'époque, pour voilà, nettoyer, etc. Donc, le bar fait partie intégrante, effectivement, de la boule de fort, pour voilà. se retrouver, pour échanger.
Parlons un peu de Fanny, parce que vous en parlez dans l'expo.
Et Fanny, effectivement. Alors, Fanny...
Alors, les communes à plusieurs jeux, Fanny. Les oui. communes à plusieurs jeux de boules, oui.
C'est ça. Donc Fanny, c'est une histoire un peu grivoise. Alors, comme pour la boule de fort, on n'est pas sûr vraiment de l'origine. Donc, moi, je vais parler de l'origine supposée. Donc Fanny, alors, comment on en vient à ça ? Fanny, c'est une figure féminine représentée dans tous les cercles de boules de fort. C'est une figure féminine parfois sculptée, parfois peinte, parfois photographiée. Donc c'est une femme dénudée dont on voit l'arrière-train, les fesses, et qu'il faut biser voilà. les fesses.
Quand on a gagné ou quand on a perdu ?
Quand on a perdu, quand Mais on a oui. fait zéro point. Voilà. Alors quand on a 10-0 et que l'équipe a zéro, il faut biser Fanny.
Voilà, voilà.
voilà.
Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup insisté là-dessus, mais les origines, en fait, c'est un Bon, les origines ne sont pas super bien connues, il y a pas mal de légendes.
C'est exactement ça, on a beaucoup d'hypothèses en fait sur d'où vient la boule de fort. Alors la plus connue ce serait les mariniers de Loire, les ouais. mariniers de Loire qui joueraient dans les gabarres puisqu'effectivement le fond de la cale est un peu incurvé comme la piste, sauf que les bateaux de Loire sont beaucoup plus courts. On a des poutres un petit peu partout, un mât, ça paraît compliqué quand même de jouer dans un bateau de Loire. On a une origine qui proviendrait des Plantagenêts, donc du XIIe siècle, et ce serait importé d'un jeu d'Angleterre, l'actuel Crown Green Bowls. Alors ça, c'est pareil, ça ressemble beaucoup, mais c'est pas tout à fait le même jeu. Peut-être que ça viendrait des meuniers qui auraient joué avec les roulements des moulins.
Les roulements des moulins.
Et donc en fait, quand même, voilà. Il y a plein d'origines un petit peu différentes. C'est probablement un mélange en fait de toutes ces origines qui font aujourd'hui la boule de fort actuelle.
C'est pas le plus important finalement. Un peu de légende tout autour de tout ça, voilà. Alors, ce sport se pratique dans des sociétés ou des cercles. Le nom change suivant qu'on était dans un milieu catho ou chez les laïcs. Mm-hmm. Voilà, la différence c'était ça. Et combien est-ce qu'il y en a ?
Alors, des cercles de boules de fort aujourd'hui, on arrive, j'ai vérifié tout à l'heure, à peu près à 400. 400 sociétés sur...
C'est un jeu angevin, donc
c'est
sur...
C'est un jeu angevin, mais on compte aussi ceux qui sont un peu aux alentours du département. Donc le cœur, effectivement, c'est le Beaugeois, c'est le territoire angevin, Anjou, même aussi au sud de la Loire, on en trouve quand même quelques-uns. Et on en trouve aussi chez nos voisins mayennais, en Indre-et-Loire, un petit peu en Loire-Atlantique. Et ils sont pas majoritaires, mais on en trouve quand même quelques-uns. Mais c'est vrai que le cœur des cercles de boules de fort, c'est en Anjou, et là on en a à peu près 340 à peu près. Ça commence
en fait,
à faire.
C'est ceux qui font, qui sont à la fédération. Vous êtes sûr de votre, enfin, comment on peut être sûr d'avoir compté ? C'est parce qu'ils sont à la fédération.
C'est ça. Ouais. En fait, on compte aussi. Certains cercles sont adhérents à la Fédération française de boules
ouais,
de fort. Certains n'en font pas partie. Donc, c'est toujours un petit peu délicat. Et puis, malheureusement, certains cercles aussi ont fermé, dû soit à une population vieillissante ou plus personne pour entretenir les cercles. Et aussi, malheureusement, à cause du Covid,
ça a aussi changé les choses.
Ça a pu changer un petit peu les choses parce qu'en fait, pour certaines personnes, dans certains villages, il ne reste que la société de boules de fort comme
lieu. Il n'y a même plus un café.
Il n'y a plus de café.
Ouais, l'endroit de convivialité.
Donc la boule de fort devient lieu d'échange, devient lieu de café. Peut-être qu'on n'y joue pas forcément. On s'y rencontre, on s'y voit, oui. on parle de l'actualité. On boit un verre de blanc, on boit un café, un orangina et puis on rentre chez soi.
Alors ce jeu, il est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Anjou, à l'UNESCO. Il est toujours vivant aujourd'hui. Là, on en parle un peu. Bon, alors, c'est pas que... J'étais un peu moqueuse, c'est pas très gentil, mais est-ce que c'est pas que des vieux en charentaise voilà, on peut parler de la mixité, d'une certaine, d'un petit changement.
Il y a eu plusieurs changements, effectivement. Alors, on va parler de la mixité, parce que ça, c'est quand même un sujet particulier. Donc, effectivement, les cercles de boules de fort, on l'a pas mentionné plus tôt, mais ça a été...
Que des hommes.
Comme... C'était des sociétés d'hommes. Mmh. Les hommes se retrouvaient après le travail pour jouer, se retrouver. C'était interdit aux femmes, et si une femme s'y trouvait, on pouvait payer une amende. Donc c'était particulier. Et en fait, les femmes ont été admises dans les cercles de boules de fort à partir des années 70. Donc c'est quand même tard. 1970, je précise. Donc c'est assez tardif. Mais mine de rien, ça a permis de rajeunir un petit peu quand même les cercles de boules de fort. Et aujourd'hui, on voit un petit peu, pas un exode de la jeunesse, mais on voit quand même quelques personnes qui reviennent dans leur village natal, des enfants, petits-enfants, qui ont appris à jouer à la boule de fort, qui reviennent, qui font découvrir à leurs copains. Et en fait, dans certains villages, on voit que la moyenne d'âge baisse.
Ouais. Un intérêt pour le patrimoine aussi.
Un intérêt pour le patrimoine, et puis ça reste un jeu hyper convivial. En général, c'est très amusant. Et puis, c'est comme un bar, c'est ce qu'on disait. Parfois, il y a le jeu de boules de fort, et puis en fait, il y a aussi un jeu de fléchettes, un baby-foot. Et en fait, ça devient une sorte de local jeu à partager.
Voilà, donc, c'est toujours bien vivant, mais l'âge d'or de la boule de fort, c'était...
C'était le 19e siècle.
Ouais, c'est ça.
Là, on pouvait compter jusqu'à 1000 cercles de boules de fort dans tout l'Anjou. On en a perdu quelques-uns en cours de route quand même. Donc, effectivement, ça reste majoritairement des hommes à la retraite qui joue à la boule de fort, mais il voit quand même quelques personnes s'intéresser aujourd'hui à la boule de fort.
Alors, comme particularité, c'est qu'on ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion.
On évite. C'était interdit.
Alors, quelques activités autour de l'expo ?
Alors, on en a quelques-unes. On propose des animations famille, notamment là pour l'été. On a quelques rendez-vous tout l'été, et également initiation à la boule de fort. Donc voilà, ça aura lieu juste après.
Il faut tester en fait.
Il faut tester. Visiter l'expo et tester.
N'hésitez pas à aller sur le site. Alors je vais dire un petit mot sur un autre jeu.
Ah voilà, la boule de sable, Marie. Une variante alors ?
Ben, on n'en revient pas, on a travaillé un peu le sujet, Louise. Avant d'aller à l'expo sur la boule de fort au château de Beaugé, on a travaillé ce sujet des jeux de boules et on a trouvé... Voilà, on a découvert au pied de l'abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil qu'il y a plusieurs terrains de jeux de boules de sable, un jeu vraiment peu connu, encore bien bien moins connu que la boule de fort, et qui est pourtant lui aussi inscrit depuis fin 2022 au registre des bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc il existe une douzaine de sociétés quand même de boules de sable en France, très localisées, Angers, Nantes, Cholet.
Et l'origine de ce jeu, alors, c'est à peu près le même.
Pareil aussi, beaucoup de légendes, beaucoup de choses qui s'entrecroisent et finalement un peu de vérité dans tous peut-être. Une origine qui pourrait être, là aussi, celle des mariniers, comme vous disiez Louise, pour la boule de fort, qui s'arrêtait quand il n'y avait pas de vent et puis qui jouait sur les grèves. Quelques poignées de fidèles inconditionnels qui se retrouvent pour jouer et surtout, là aussi, on est là pour l'ambiance, la convivialité. Ça ressemble un peu à la pétanque, ça se joue en extérieur avec la seule et unique boule, en chêne vert ou en cormier, que l'on jette sur un terrain de sable au plus près d'un mètre ou d'un cochonnet, et il y a un trou pour y mettre le doigt, là, un rappel à un autre jeu. Pour y jouer, il faut aimer la précision et là encore, la convivialité.
Voilà, maîtrise de soi, calme, précision, c'est vraiment les conditions pour apprendre à jouer.
Donc, merci beaucoup Louise.
Oui. Merci à vous.
N'hésitez pas à aller sur le site des 3 musées insolites en Anjou pour retrouver tous les renseignements sur cette boule de fort.
C'est ça.
L'expo.
Merci. Et on écoute tout de suite Bobby Caldwell, What You Don't Do For Love. Un morceau de soul de 1979 et on vous retrouve tout de suite après. I guess you wonder where I've been. I search to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze. From your love, you see, I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. People go around the world for love, and they may never find what they dream of.
you won't do to do for love. You tried everything, but you don't give up.
Alors tout de suite, on écoute un conseil de lecture avec Mathilde Mailleux, qui est libraire à la Procure à Paris.
Le mur de Christian Bobin, c'est un roman très émouvant. Enfin, ça n'est pas un roman d'ailleurs, c'est un texte. Ce sont des textes qui ont été réunis sous le vocable de murmure, le murmure. C'est un livre extrêmement émouvant parce que c'est un livre posthume. Christian Bobin est décédé à la fin de l'année 2022. Et c'est un texte qui nous prend quand on aime Christian Bobin. Ce texte nous invite avec émotion à reprendre la dynamique, la gestuelle écrite de cet homme, ce poète français qui avait un rire éclatant, qui était un homme joyeux et qui savait se transmettre, le goût de la vie par le goût des mots. C'est un texte qui m'a un peu prise aux tripes, je dois dire, parce que nous ne l'attendions pas du tout, nous libraires. C'est un texte, quand il nous a été présenté, nous avons tous été surpris. Et puis à la lecture, je dois dire que l'émotion reste intacte. Le bonheur de pouvoir lire encore une fois, une dernière fois, Christian Bobin est un merveilleux cadeau qu'il nous fait depuis l'au-delà. De cette vie aujourd'hui dans laquelle il nous invite à vivre. C'est exactement le sens de tout ce texte qu'il nous dit. C'est une ode à la vie, à l'amour aussi avec un grand A. Ce sont des textes très émouvants. Il se sait malade, il est parfois à l'hôpital, dans son lit, et puis ce qui prédomine dans ces pages, c'est le regard plein d'acuité qu'il a sur les petits moments de la vie, mais aussi sur l'appel qu'il a au fond de lui-même, pour justement porter ce regard à la fois tendre, malicieux, mais aussi parfois exigeant sur la vie. Le regard qui se porte sur les toutes petites choses, la nature, la musique est omniprésente aussi, les interprètes, Chopin. Enfin, c'est tout un univers qui se déploie à nouveau sous nos yeux, mais avec effectivement cette finalité qui est terrible à la fois. À lire et à écouter finalement, c'est qu'il sait que la fin est proche. Et c'est un texte qui pourrait se résumer dans cette citation qui m'a beaucoup touchée. Elle est la voici. Si ce livre devait être le dernier, alors il faudrait qu'il soit le plus jeune de tous ceux que j'ai écrits. Alors quelle formidable conclusion finalement que de se dire qu'à travers cette phrase toute simple, Christian Bobin avait la conscience que ces pages seraient les dernières, certainement, et qu'il aimerait certainement que ces pages soient considérées finalement comme les plus fraîches, et donc certainement avec la fraîcheur de la jeunesse, que ce livre soit finalement le plus jeune de tous les écrits qu'il ait pu écrire auparavant.
Alors Mathilde, parlez-nous de l'homme, Christian Bobin, que vous avez rencontré à plusieurs reprises, je crois.
Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer à deux reprises, donc en interview à la librairie. Et c'était un homme qui était absolument succulent. Pas si simple que cela à suivre. C'était un homme à la fois délicieux, mais virevoltant dans la pensée, dans le regard qu'il pouvait poser sur les gens. Et cet homme était extrêmement touchant, extrêmement précis, extrêmement soucieux de rester le plus fidèle à lui-même, à ses écrits, d'être respectueux aussi de son auditoire, très respectueux aussi des gens qu'il rencontrait. Il y a énormément de gens qui avaient envie, lors des séances de dédicace, de prendre du temps avec lui. C'était un homme qui savait embrasser la vie. C'était pour ça que c'était pas si facile que ça que de l'interviewer, parce que il avait son propre mode de fonctionnement. Ces textes, qui sont des textes à la fois extrêmement riches, mais parfois un peu courts, ne sont pas si simples que cela à faire valoriser par l'auteur, qui lui-même en fait s'emparait de ces textes, mais en faisait quelque chose, en faisait une création nouvelle à chaque fois. Donc il fallait le suivre dans ses hauteurs, dans l'inspiration tout d'un coup qui le prenait. C'était à la fois extrêmement impressionnant et très intimidant, mais c'était un homme qui était d'une telle générosité, avec un si beau sourire, en fait qu'il savait conquérir tout le monde. L'écriture restait simple, mais elle était tellement juste, elle est tellement juste, à nouveau nous pouvons le vérifier aujourd'hui avec le murmure, et puis cette foule à la fois anonyme, mais tellement émue de pouvoir rencontrer un homme qui en fait savait toucher du doigt ce qui est essentiel dans la vie, c'est-à-dire les petites choses de la vie, de savoir valoriser, mais plus que valoriser, chérir la nature, les petites choses, les oiseaux, une goutte d'eau. Voilà, il parle beaucoup de sa cuisine, il parle beaucoup de la musique qui enveloppe une maison. Cette sensibilité hors norme qu'il a su transcrire de façon merveilleuse dans ses écrits. Cet homme-là, même à l'oral, avait cette puissance-là.
Franche culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci Hugo pour la technique. Et puis retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.